Oh, hein, Martin qui dit, ah, j'ai encore mal dormi, ouais. Je me suis réveillé.
Mais il se plaint toujours, Martin.
J'ai dormi les fenêtres ouvertes et il y avait plein de bruit.
Là, j'ai suivi le conseil de Sandrine Danse, j'ai mis du savon de Marseille en dessous de mon matelas.
Ah oui,
pour
oui,
les
oui.
Crampes.
Et ça a marché?
Une semaine que j'ai plus de crampes.
Parce que j'étais chez vous, à Uccle, avec cette question, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit?
Nous sommes le 17 juin, Jean-Mi, c'est un 17 juin 1939, je vais pas être très drôle, là, que la France tue son dernier condamné à mort.
Ah bah, c'est sympa.
Par guillotine et en public, ça se passe à Versailles. Et en fait, le public s'est massé très tôt devant la prison. Certains buvaient un café, d'autres rigolaient, faisaient des photos. Un climat festif qui a choqué à l'époque, c'est pourquoi la France, pour de bon, a arrêté toutes ces condamnations au public. Voici votre météo.
Et ce mardi, nous profiterons à nouveau d'une belle journée chaude et ensoleillée. Des nuages cumuliformes se reformeront en cours de journée dans l'intérieur des terres avant de disparaître en soirée. Les températures, elles atteindront les 23 degrés en bord de mer, ainsi qu'en Haute-Ardenne, et jusqu'à 28 degrés dans de nombreuses autres régions.
Belle RTL, vibrez ensemble.
Bon début de journée à l'écoute de Belle RTL, il est 7h. Et à 7h, le rendez-vous RTL Info, c'est avec Thomas de Bergeyck.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'enquête continue à Anvers pour comprendre les motivations de l'homme qui a égorgé un septuagénaire dans un bus. Il avait proféré des menaces de mort juste avant de passer à l'acte. Le parquet et la police s'expriment. Israël veut anéantir l'ayatollah en Iran. Le premier ministre de l'État hébreu justifie sa nouvelle guerre avec le régime iranien. Et vous l'entendrez, ce conflit a des conséquences internationales.
Et nous soufflerons également les bougies d'un gros gâteau ce mardi.
Eddy Merckx a 80 ans et 3 fois plus de victoires à son compteur. Entretien exclusif avec un autre ténor de la petite reine. Rendez-vous en fin d'édition. L'enquête se poursuit à Anvers après cette agression, cette fois mortelle, une attaque au couteau hier après-midi à bord d'un bus de l'Aisne qui a coûté la vie à un senior. Il a été choisi par hasard par l'assaillant qui a fait également 2 blessés avant d'être interpellé. Vanier Esposito, bonjour, en sait-on un petit peu plus ce matin sur la victime ?
Eh bien, on sait que l'homme est âgé de 76 ans. D'après Last News, la victime aurait été égorgée. 2 autres hommes ont aussi été blessés. Écoutez Kim Bastiens, porte-parole de la police d'Anvers.
La victime n'a pas survécu à l'agression. Pour l'instant, tout indique qu'il s'agit d'un acte commis au hasard. Lors de cette attaque, un autre homme a tenté de s'interposer et a également été blessé. Il a été transporté à l'hôpital, hors de danger.
Pour rappel, l'attaque s'est produite hier vers 14h30 dans un bus de la ligne 36 de Delaine. Alors toujours selon HLN, une heure plus tôt vers 13h, un homme de 38 ans entre dans un magasin d'alcool. Il prend 2 canettes de boissons énergisantes et sort sans payer. Une heure plus tard, il monte à bord du bus et c'est là qu'il passe à l'acte. Des images montrent son interpellation. En fait, la police est arrivée très vite. Elle avait été alertée par plusieurs signalements. Des témoins expliquent qu'il aurait menacé de tuer peu avant l'attaque. Alors l'enquête se poursuit pour comprendre le mobile du suspect. Écoutez Cato Bellmans, porte-parole du parquet d'Anvers.
Après l'incident, nous avons ouvert une enquête pour meurtre qui est toujours en cours dans l'objectif de comprendre ce qu'il s'est exactement passé ici.
Le laboratoire mène également une enquête médico-légale.
Vanni Esposito.
Et l'application RTL Info reprend l'ensemble des éléments sur ce dossier. L'article est en ligne aux côtés de toute l'actualité.
Le corps d'un bébé a été retrouvé dans un sac poubelle hier à Charleroi. Il a été abandonné dans le jardin d'une habitation occupée par une jeune femme et ses parents. Selon les premières constatations, l'enfant serait décédé depuis plus d'un an. L'enquête ne permet pas encore de dire si le bébé est né vivant, ni si la mère est impliquée. L'hypothèse d'un déni de grossesse est envisagée. Une autopsie est attendue dans les prochains jours. L'actualité nous emmène une fois encore au Proche-Orient, dans ce nouveau conflit mené par Israël. Il attaque depuis 5 jours l'Iran et ses sites stratégiques nucléaires. Des frappes sans interruption cette nuit encore, par drones et missiles, précise Téhéran. Ce matin en Israël, les sirènes ont retenti pour une alerte aérienne durant quelques instants.
Le premier ministre israélien qui justifie sa guerre.
Dans une interview à la chaîne américaine ABC, il explique que tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettra fin au conflit entre son pays et l'Iran.
Ça ne va pas faire d'escalade dans le conflit, cela va résoudre le conflit. Ça fait près d'un demi-siècle qu'on a eu ce conflit à cause de ce régime qui a terrorisé tout le monde au Moyen-Orient, qui a bombardé l'Irak, a détruit les sites pétroliers en Arabie Saoudite et répandu le terrorisme. La guerre éternelle est ce que veut l'Iran et qui nous amène au bord de la guerre nucléaire. Et ce que fait Israël, c'est empêcher cela en mettant fin à cette agression.
Et dans ce contexte d'incertitude internationale, une question, Olivia François. Le prix du pétrole pourrait-il à nouveau flamber ?
Les tarifs étaient assez bas ces dernières semaines, mais depuis vendredi, suite à l'escalade des violences, le prix du baril a significativement augmenté. Et chez nous, on commence à sentir une petite différence. 3 ou 4 centimes d'euros de plus le litre pour le mazout à partir de ce mardi. Emmanuel Cécile, conseiller énergie et environnement à la BRAFCO.
Par rapport au prix du carburant, c'est encore un peu trop tôt. Il faut encore attendre quelques jours pour voir la répercussion sur le prix à la pompe. Si le conflit continue à s'aggraver, il y a une forte probabilité que le prix du baril continue de monter.
Impossible de dire ce qui va se passer, évidemment. En Iran, tous les regards sont tournés vers le détroit d'Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale de pétrole. Firouzeh Nahavandi, spécialiste du monde arabe.
Si le détroit d'Ormuz est bloqué, tous les pays et tous les autres bateaux qui transportent le brut sont concernés. Et donc là, c'est l'approvisionnement mondial, en quelque sorte, qui va être en danger.
Si l'Iran décide de jouer cette carte, ce serait probablement en tout dernier recours. Le sommet des grandes puissances du G7 au Canada pourrait aussi influencer la donne.
Merci Olivia. Et en effet, les dirigeants se sont entendus pour appeler à une désescalade dans le conflit entre l'Iran et Israël. On vient de l'apprendre. Une déclaration commune signée. Ils appellent à protéger les civils tout en réaffirmant le droit d'Israël à se défendre. Sur le terrain, à Gaza, on apprend que 38 personnes au moins ont été tuées par des tirs de l'armée israélienne ces dernières heures. Elles allaient chercher de l'aide humanitaire. 200 Palestiniens ont aussi été blessés à Rafah.
Il est 7h06 en politique. Rendez-vous crucial ce matin au Parlement fédéral.
Une commission parlementaire spéciale va se tenir en présence du Premier ministre avec le ministre de la Défense, Théo Franken, et avec Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères, qui sera notre invité ici même à 7h50 en direct. Il s'agit de fixer la position de la Belgique la semaine prochaine lors d'un sommet crucial de l'OTAN. Notre pays mis sous pression par ses partenaires pour dépenser davantage pour sa défense. Le coup de blouse du secteur de la rénovation immobilière dans l'actu avec ses chiffres éloquents. 2/3 des entreprises constatent une baisse des demandes depuis février. En fait, depuis la mise en place d'un régime transitoire des primes. Et vous êtes nombreux à avoir vu ces primes disparaître. Vincent Legrève avec Mathieu Langer. Reportage.
Florian De Waal est responsable commercial d'une société de rénovation.
Donc ils vont faire des priorités, notamment sur la toiture par exemple, alors qu'avant ils faisaient une partie de ventilation ou alors les châssis en complément. Ils disaient ok, ça fait partie de l'enveloppe globale. Aujourd'hui ils sont obligés de prioriser quoi.
Une entreprise wallonne sur 4 a même vu ses clients annuler leur projet.
On sent qu'il y a une certaine diminution, je dirais de l'ordre de au moins une 20% où on a beaucoup moins de clients qui nous appellent.
Depuis la mise en place du régime de primes transitoires, les retards administratifs dans le traitement des dossier est une réalité pour une entreprise sur deux. C'est le cas dans la société de Pierre Gauthier, spécialiste en isolation.
On guide le citoyen de A à Z, vraiment, pour leur expliquer. On fait les documents, on leur explique exactement ce qu'il faut faire pour avoir les primes, les nouvelles primes. Mais on sent que le citoyen est perdu, n'est pas là, il attend.
Car ce régime temporaire est prévu jusqu'au 1er octobre 2026. En attendant, la Confédération de la Construction propose un calendrier d'obligation de rénovation, un éventail d'aides coordonnées ou encore des projets de rénovation quartier par quartier.
Vincent Legrève, merci. Il est 7h08, un anniversaire ce mardi pour un monument du cyclisme, le crack. Eddy Merckx fête ses 80 printemps. Le mot, 525 victoires professionnelles, 5 victoires au Tour de France, 5 au Tour d'Italie et pas que. Fait le point sur sa carrière et pas avec n'importe qui, avec Philippe Gilbert. Un entretien de plus d'une demi-heure à découvrir ce soir sur RTL Play. Sarah Salamone. Ils ont abordé de nombreux sujets de discussion.
Oui, on commence tout d'abord avec sa santé. Victime d'une chute en décembre dernier, l'ancien cycliste rassure.
Ça s'améliore, je dirais. C'est pas encore ce que ça devrait être, mais bon, quand même, petit à petit, ça va quand même mieux.
Grand moment de sa carrière, vision actuelle du cyclisme. Le vélo était au centre de la discussion, mais pas que.
Je suis supporter d'Anderlecht. C'est pas parce que Anderlecht n'est pas au top aujourd'hui que je vais tourner ma veste.
Au fil de ses victoires, Eddy Merckx est devenu une véritable légende. Il continue aujourd'hui de passionner des générations entières.
Ça fait plaisir, bien sûr, qu'après autant d'années, les gens reconnaissent encore et qui
qui viennent pour un autographe. Bien sûr, toujours, c'est pas facile, mais c'est quand même une reconnaissance.
L'ancien cycliste a également profité de l'occasion pour aborder un projet sur lequel il a collaboré, le film 525, une biographie anglaise qui revient sur ses victoires et sur les sacrifices de sa famille.
Et bel anniversaire donc à Eddy Merckx, notre géant, notre cannibale, Sarah Salamone. Un mot de football enfin, mais Westerlo qui met fin à sa collaboration avec Timmy Simmons. Il était en poste depuis l'été 2024. Un départ d'un commun accord, selon le communiqué.
Et puis je vous l'annonçais hier, un certain temps estival qui nous accompagnera toute la semaine. On a commencé avec une très belle journée hier lundi. Et cela continue ce mardi avec un beau ciel bleu, du soleil et des maxima qui grimperont jusqu'à 28 degrés. Cette météo ensoleillée sera d'actualité sur la totalité de la Belgique jusqu'au minimum lundi prochain. On perdra quelques degrés jeudi et vendredi avec des maxima qui ne dépasseront plus les 23 ou 24 degrés. Mais cela repartira de plus belle ce week-end avec des températures qui dépasseront carrément la barre des 30 degrés jusqu'à 32 degrés dimanche. C'est tout bon, vous pouvez lancer des invitations pour les barbecues du week-end. Et puis sur les routes, on rappelle cette perte d'une remorque sur la nationale 59, la route Baccara à hauteur de Senef. La chaussée est signalée fermée dans les deux sens en direction de Feluy, en direction d'Anderlu. Une déviation est mise en place via le zoning vers Bruxelles. On parle des files habituelles avec 20 minutes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grand Bigard et Machelen vers Zaventem avec cette voiture en panne à hauteur de Zelik. 15 minutes de perdu sur l'E411 Namur-Bruxelles de Oulart au carrefour Léonard. 15 minutes également sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Grand Bigard, et puis 10 minutes sur le 429 tournée Bruxelles entre Lembeek et Halle. Enfin, dans le sud du Royaume, vous ajoutez 15 minutes entre Hondelange sur le 411 et Capelen sur l'A6 au Luxembourg.
Infotrafic. Roulez en toute sécurité avec Bell RTL. Bell RTL Matin avec Jean-Mi Gautournon et Thomas de Bergueil.
Il est 7h11, bienvenue, bon réveil. Ah, il y a des gens qui sont en vacances déjà cette semaine.
Ouais, et il y a des gens qui promettent des barbecues, comme vous.
Exactement.
Alors moi j'accepte votre invitation.
Eh ben écoutez, vous pouvez venir dimanche.
Ouais, d'accord,
on fait comme
avec
ça,
grand plaisir.
Dimanche, ah ben, sur le temps de midi, un petit peu après. Le temps que je termine le stop ou encore, ben et oui. Puis on se retrouve à la maison. J'espère que vous passez en tout cas une belle journée à l'écoute de ce Bell RTL Matin. Merci de débuter cette journée avec nous. On ira au cœur de vos régions évidemment, on va jouer ensemble à la valise, on en reparlera parce qu'elle est en train de grimper. On a commencé hier à 500, elle est à 575 €, puisqu'à chaque rendez-vous de la valise, ouais. Si elle n'est pas trouvée, on rajoute 25 € dans la valise et ça fait monter le compteur, évidemment. Jean-Jacques Goldman, pour vous souhaiter la bienvenue si vous débarquez, il changeait la vie.
C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Mettez du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. Un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Qu'un tout petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit en temps de larmes et de douleur,
rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirées jour après jour de son souffle et de ses cris.
Bon, je vais vous avouer, je suis un homme heureux, moi, ce matin. Non seulement parce qu'on débute l'émission avec du Jean-Jacques Goldman, il changeait la vie, mais en plus de ça, parce que j'ai trouvé un allié sur la cuisson de la viande pour le barbecue. C'est mon ami Thomas de Bergeyck, qui lui aussi, tout comme moi,
il changeait la viande.
prend la viande bien cuite. C'est vrai qu'on est rare. On vient de voir avec Fabrice, avec
mais
Pauline
oui,
également,
erreur.
Qui nous a rejoint, qui mange leur viande plutôt saignant sur le barbecue.
On
pour Thomas et moi, c'est du bien cuit. Attention, on voit le visage de Fabrice qui a changé, il tire la tête. Maintenant.
Écoutez, on fera des soirées séparées, hein, c'est tout. Fabrice et moi d'un côté.
Mais non, on peut faire tous
Thomas
ensemble.
Et Jean-Mi de l'autre.
Avec des cuissons différentes, comme sûr, vous évidemment. Qui nous écoutez ce matin.
Vous les mangez gazouillis. Cui, cui, cui.
Belle RTL. Loto est à la recherche de dents.
Ah, les miennes sont bien brossées.
Super, car le jackpot Loto Extra du vendredi 13 juin n'est pas tombé. Alors jouez maintenant et préparez-vous à croquer dans le prochain jackpot.
Miam, 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 miam.
C'est si bon.
Millionnaire recherché. Ce mercredi, il y a un jackpot de 4 millions d'euros. Loto, parce que c'est possible.
Last Minute Sunweb en Grèce. It's a Sunweb holiday. Réservez maintenant avec la garantie du prix le plus bas sur sunweb.be.
Il est 7h16.
Au cœur de vos régions, avec Sudinfo.
Et avec Pauline Laurent. Bonjour Pauline.
Bonjour Thomas.
On va revenir d'abord sur les incidents ce week-end sur la E42 à Péruet. Des automobilistes qui affirment avoir été victimes d'agressions et de tentatives de raquettes au moment d'un rassemblement de voitures tunées.
Les organisateurs de l'événement témoignent. Ils affirment qu'ils s'attendaient à attirer du monde, mais ils précisent qu'ils ne voulaient pas que la situation dégénère, Vanny Esposito.
Groupe AF7BXL justifie en tout cas son action de ce week-end. Passionné de mécanique et de tuning, il déplore l'absence de terrain légal pour organiser ses rassemblements. Et il les organise donc un peu au hasard. Son objectif, selon l'un de ses membres, ce n'est pas d'enfreindre les règles, mais simplement de vivre sa passion. Il rajoute « Les rassemblements se font toujours dans le respect et c'est la première fois que de tels débordements se produisent. Samedi soir, tout est mis en place pour que l'événement se passe bien, c'est ce qu'affirment les organisateurs, mais des personnes mal intentionnées se sont greffées au rassemblement, des casseurs, ils ont menacé des automobilistes, dégradé du matériel. Les membres du collectif disent avoir tenté de reprendre la situation en main, mais ils semblent avoir été débordés. Vu les dégâts sur la route, la Sofico qui gère les autoroutes en Wallonie a annoncé que la région wallonne avait porté plainte, la Sofico qui se dit prête également à se constituer partie civile.
Merci Vanny pour ces détails. Dans le Namurois, les conséquences encore ce matin de l'incendie d'hier à l'hôpital de Montgaudine. L'ensemble des consultations doit reprendre normalement ce matin, à l'exception de l'ophtalmologie, de l'urologie et d'une partie de la dermatologie. Les patients de ces services ont été prévenus, certaines consultations sont reportées, d'autres sont organisées dans d'autres établissements hospitaliers.
Pauline, direction la vallée de la Vesdre, à Nessonvaux à présent, où deux artistes ont transformé leur atelier en un monde marin fantastique.
Cet atelier a été inondé à plusieurs reprises, ce qui a inspiré les artistes pour créer cette exposition immersive et engagée. Reportage de Lise Cassotte.
Un bateau de 12 mètres de long posé sur le toit, bienvenue dans Immersion 2410. Une plongée artistique dans un futur englouti par les eaux, inspiré d'un passé bien réel. L'atelier a été inondé en 2021 et en 2024, ce qui est devenu un point de départ artistique. Anouk Tisserand est peintre.
C'est une exposition du coup sur trois niveaux. Donc ici on a la surface, donc il y a le gros bateau. En dessous on est sous l'eau et on a voulu représenter un peu la chaîne alimentaire. Donc il y a une orque qui mange un requin marteau, qui mange des raies, etc. Et puis ensuite on a comme projet d'ouvrir aussi le bas et être vraiment plus dans les fonds marins.
L'atelier est métamorphosé, une orque grandeur nature côtoie des crabes, des poissons et d'autres mammifères marins ici. Tout est conçu à partir de matériaux de récup. Christophe Henry, l'autre membre du duo, veut faire de cette exposition un lieu ouvert aux autres artistes.
Je trouve qu'au vu de l'état actuel de la société, on a besoin de partager, de donner et surtout aux artistes.
250 visiteurs ont poussé les portes de l'atelier le premier week-end d'ouverture.
Lise Cassotte. Enfin, là aussi, des expositions s'y déroulent au centre du temps choisi à Gilly qui est en cours de rénovation.
Ce lieu culturel bien connu des Carolos est fermé depuis près de 10 ans et il attendait une rénovation en profondeur, électricité, chauffage, sécurité, loge, fauteuil. Tout va être remis aux normes. L'identité architecturale du bâtiment, comme le plafond de sa salle principale de 620 places, sera lui préservée. Le temps choisi rouvrira ses portes à l'été 2026. Une réouverture qui participera à la redynamisation de tout un quartier. Écoutez les chemins des bâtiments de Charleroi, Mahmoud Dogrou.
Ça fait partie d'un tout. En fait, on veut vraiment remembrer, mais aussi rapporter une attractivité, une dynamique dans le centre de Gilly. Et c'est pour Gilly, mais pas que, parce que la salle Centre Temps Choisi aura aussi un attrait partout ailleurs que Gilly. Donc il y aura des associations qui viendront d'ailleurs de Gilly, mais de Charleroi et bien au-delà de Charleroi. Donc ça va vraiment être un pôle d'attractivité.
Une interview de Marc de Moustier.
Ah, moi, j'ai des souvenirs incroyables, Pauline, parce qu'on a joué la pièce du Téléville, figurez-vous.
Oui, plusieurs fois même.
Plusieurs fois, et puis il y avait même coup de dé dans les années 90. Donc, le centre du temps choisi, c'est très connu.
Au cœur de vos régions, avec Sudinfo.
à peu près un mois, elle était sur la plage de Copacabana pour un concert absolument incroyable. Elle a battu un record, plus de 2 millions de spectateurs. C'était absolument énorme. C'était Lady Gaga.
Vous écoutez toute la semaine Bel RTL Matin.
C'est l'heure du rendez-vous de Christophe Gilletet avec le signé Gilletet. Christophe, on s'interroge dans les chancelleries européennes sur les intentions véritables d'Israël concernant l'Iran. Le motif officiel des bombardements est la neutralisation des capacités nucléaires de la République islamique. Mais l'objectif ultime de l'État hébreu serait peut-être tout simplement de renverser le régime des Mollahs.
Aucun doute, les leaders iraniens sont autant de cibles. Au moins une vingtaine de cadres militaires, parmi lesquels des proches du guide suprême, Ali Khamenei, comme le chef des gardiens de la révolution, le général. Il a quitté sa résidence du nord de Téhéran et serait caché dans un endroit secret, a priori inaccessible aux missiles hébreux. Il y a un précédent. L'assassinat par Israël en septembre 2024 du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah. Depuis, les leaders iraniens savent qu'aucune immunité ne les protège. Pourtant, à part quelques exceptions, comme Kadhafi en 2011, les chefs d'État sont rarement visés dans leur personne. On préfère les capturer et les juger comme Saddam Hussein ou les dignitaires nazis après la Seconde Guerre mondiale, quitte à les pendre ensuite. L'une des raisons est tout simplement pragmatique. Il faut bien quelqu'un avec qui signer un cessez-le-feu ou un armistice. C'est pourquoi, par exemple, les alliés n'ont arrêté le successeur d'Hitler, l'amiral Dönitz, que le 23 mai 1945, soit 15 jours après la reddition allemande. On peut remonter très très loin dans l'histoire. Ainsi, la volonté d'Octave de capturer Cléopâtre pour l'exhiber dans son triomphe à Rome, elle a préféré le suicide auprès de Marc-Antoine. Au final, les Israéliens ont-ils intérêt à tuer le guide suprême ainsi que le président de la République, Massoud Pezeqian, ou le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf? Ce n'est pas sûr. Si pour des raisons stratégiques, ils ont éliminé l'état-major de la force aérienne qui s'était réuni dans un lieu connu du Mossad, ils n'ont pas forcément intérêt à décapiter le leadership politique. Certes, il existe en Iran une opposition au régime, notamment un fort mouvement pour la libération des femmes. Certes, il subsiste des partisans du Shah qui rêvent d'une restauration, mais rien ne dit que la mort de Khamenei précipiterait les Iraniens dans les rues. D'abord, on lui trouverait rapidement un successeur. Et puis les Perses sont un grand peuple, avec de puissants ressorts nationalistes et même patriotiques. Ainsi, en 1980, pendant la guerre Irak-Iran, les Mollahs avaient sorti de leur prison les pilotes du Shah qui s'étaient remis aux commandes de leurs avions au service de leur pays. Israël peut affaiblir le régime, c'est déjà fait. Mais le renverser, c'est une autre histoire. À demain.
Merci Christophe, à demain.
Marine, cœur maladroit, c'est à découvrir maintenant sur Bel RTL.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, j'ai le cœur maladroit. Commence à durer, mais tout va recommencer. J'ai le cœur maladroit. We'll be right back.
soleil à la Saint-Hervé fait présager un bel été. Et ça, j'achète, comme dirait l'autre. On s'imagine déjà un été magnifique pour profiter pleinement des vacances, les grandes vacances, comme on disait quand on était étudiant. Après les deux derniers étés, franchement, qui n'étaient pas terribles, cela fera du bien. Je ne peux encore rien vous confirmer pour l'été, mais en tous les cas, pour cette semaine et ce week-end, je peux là vous confirmer un temps estival avec du soleil, un temps sec, un ciel splendide et des maxima jusqu'à 28 degrés pour ce mardi. Sur les routes, on signale le début des ralentissements sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et La Hulpe vers Zaventem et sur le 40 Liège-Bruxelles entre Asserod et les travaux à Berthem. Dans les deux cas, vous ajoutez 10 minutes sur votre temps de parcours. Les files augmentent également sur le 411 venant de Namur. Vous êtes à l'arrêt depuis Overijse. Si vous perdez 20 minutes vers la capitale, vers Bruxelles, vous ajoutez également 10 minutes sur le 19 Mons-Bruxelles entre Besançon-Rieux et Feluy. Et puis on rappelle cette perte de remorque. C'est par un camion. Nous sommes sur la nationale 59 à hauteur de Senef, un axe fort fréquenté le matin. La chaussée est toujours fermée dans les deux sens, en direction de Feluy et puis en direction d'Anderlu. Une déviation est mise en place via le zoning.
Infotrafic. Roulez en toute sécurité avec Bell RTL. Bell
RTL. Bon début de journée avec Bell RTL, il est 7h30. L'essentiel de l'actu de ce mardi, c'est avec Pauline Laurent.
Bonjour à tous. Une enquête en cours après l'attaque au couteau dans un bus à Anvers. Hier après-midi, un homme de 38 ans s'en est pris à des navetteurs. Une personne, un homme de 76 ans, est décédé. Deux autres ont été blessés, dont le conducteur du car. Le mobile de l'assaillant n'est pas encore connu. Écoutez Kim Bastians, porte-parole de la police d'Anvers.
Le laboratoire mène actuellement une enquête médico-légale, une enquête sur les traces de coups et bien entendu, nous commençons également une enquête sur les faits.
Judiciaire toujours avec une étape importante aujourd'hui dans l'enquête sur la mort de Domenico Datria. Ce jeune homme de 31 ans, originaire de Jemeppe-sur-Meuse en province de Liège, a été tué par un policier en août 2023 alors qu'il roulait en quad et refusait d'obtempérer à un contrôle de police. Place à la reconstitution ce matin. À l'étranger, missiles et roquettes fusent dans le ciel entre Israël et l'Iran. Cinquième nuit d'attaque entre les deux pays malgré l'appel à la désescalade lancé par les dirigeants des sept grandes puissances mondiales réunies en sommet du G7 au Canada. Les chefs d'État qui appellent aussi à la protection des civils et affirment le droit d'Israël à se défendre. Tous s'accordent pour affirmer qu'il ne faut pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Le premier ministre israélien affirme que la mort de l'ayatollah Ali Khamenei en Iran pourrait mettre fin au conflit. Alors face à cette tension, une crainte chez nous, la flambée des prix du pétrole. Les prix du mazout de chauffage augmentent légèrement aujourd'hui. La hausse pourrait se constater dans les stations-service dans les prochains jours. Écoutez Emmanuel Cécile, il est conseiller en énergie et environnement à la BRAFCO, la Fédération belge des négociants en combustible et carburant.
À partir d'aujourd'hui, nous avons une augmentation entre 3 et 15 cents par litre du prix du mazout. Il faut encore attendre quelques jours pour voir la répercussion sur le prix à la pompe. Si le conflit continue à s'aggraver, il y a une forte probabilité que le prix du baril continue de monter, sachant qu'un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole provient du Moyen-Orient.
Interview d'Olivia François.
7h32, aujourd'hui, on s'intéresse à une personnalité qui a fait la une des journaux récemment. Rima Hassan, cette femme politique française, était avec la militante suédoise Greta Thunberg à bord du bateau humanitaire en route vers Gaza il y a quelques semaines. Comme tous les passagers du navire, elle a été arrêtée par Israël et expulsée dans son pays, à savoir pour Rima, la France. Mais que sait-on, Pauline, de Rima Hassan ?
Rima Hassan, elle a 33 ans, elle est française, mais elle est née apatride en Syrie, près d'Alep, dans le camp de réfugiés de Neyrab. C'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens du pays et aussi le plus pauvre. Ses origines palestiniennes viennent de son grand-père paternel, qui, lors de la création d'Israël en 1948, est forcé à l'exil. Les parents de Rima, eux, se sont rencontrés dans le camp de réfugiés. Sa mère y est institutrice et son père y a travaillé comme mécanicien. La mère de Rima quitte le camp en 94 et parvient à demander l'asile en France. Elle met 8 ans à retrouver ses enfants et à les faire venir en Europe. Rima Hassan arrive donc à 10 ans dans un petit village de l'ouest de la France, près de La Rochelle, en 2002. 8 ans plus tard, elle obtiendra la nationalité française. Dès son arrivée en France, alors encore enfant, Rima s'engage dans la politique au niveau communal. Elle intègre et fonde même plusieurs associations qui luttent pour la protection des réfugiés. Elle est diplômée en droit international à la Sorbonne. Elle s'intéresse énormément énormément au conflit israélo-palestinien et elle prend clairement parti pour la communauté palestinienne au vu de ses origines.
Oui, elle a connu un coup de projecteur l'an dernier en devenant députée européenne.
Oui, elle s'est engagée en politique et s'est présentée sur la liste de la France insoumise lors des élections européennes. Elle a été élue députée. Elle a notamment le soutien, voire l'admiration même du président de LFI, Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a notamment mis en lumière et salué le départ de Rima à bord du navire vers Gaza début juin.
Cela dit, elle divise parce que certains la soutiennent, d'autres la critiquent. Pourquoi autant de tensions autour d'elle?
Tout simplement car elle prend clairement position dans le conflit très sensible opposant Israël à la Palestine. Elle s'affiche d'ailleurs parfois avec son kefi, qui est le couvre-chef emblématique des Palestiniens lors de ses actions en tant que députée européenne. Ses opposants de droite, voire d'extrême droite, lui reprochent d'être, je cite, antisémite, voire de faire l'apologie du terrorisme en vantant les actions du Hamas. Mais certains la voient comme une icône qui défend les droits humains. C'est en tout cas comme ça que le parti politique La France Insoumise la présente.
Et on sait un peu plus de qui on parle quand on évoque Rima Hassan grâce à vous. Merci Pauline.
L'info du matin.
C'est Bel RTL Matin.
Promo canon chez Di. Deuxième à moins 50% sur Nivea Visage et Corps et 2 plus 1 gratuit sur Makeup Academy, la nouvelle marque exclusive de maquillage à petit prix. Di, être bien, tout simplement.
Politique, économie, société, sport, culture, accédez à toute l'actualité décryptée par la rédaction du soir en profitant des avantages exclusifs de l'abonnement Premium Weekend. Avec le journal du samedi livré chez vous, mais aussi tous les jours, le soir en numérique et le club abonné Bonsoir. Profitez-en à moins 50% durant 6 mois sur lesoir.be/abonnement.
Le soir.
Repensons notre quotidien.
Dans la vie, c'est toujours « et ». Et partir du taf en nage, et le stress des embouteillages, et faire ci, et ça, et oh, la batterie à plat. Chez Kuwait Electric aussi, c'est toujours « et ». Et charger rapidement, et charger ici, et bientôt là aussi. Et avec un Anka, se recharger soi. Parce qu'on est une station de recharge, et une station pour plein d'autres choses. Kuwait Electric.
Qui a dit que les voitures électriques n'avaient pas l'air sportives?
Moi?
Eh bien, découvrez les BMW M Editions. Des modèles 100% électriques, avec kit M Sport inclus. Pour un look dynamique BMW M et un plaisir de conduire incomparable. Qui a parlé d'un essai?
Moi?
Il y a déjà une BMW X1 M Edition à partir de 349 € par mois hors TVA en location pour les professionnels. Infos et conditions sur bmw.be ou chez votre concessionnaire BMW.
Chez Vandenborg, c'est pour la vie. Et la vie, ça n'attend pas.
Patrick, l'anniversaire de Mathéo, c'est demain.
On le fêterait pas plutôt après le 1er juillet?
Quoi?
Chez Vandenborg, pas besoin d'attendre les soldes pour acheter votre cadeau. Car si vous le trouvez moins cher dans les 30 jours, on vous rembourse la différence. Vandenborg, c'est pour la vie. Plus d'infos sur vandenborg.be.
Les prix mini,
ça c'est Aldi.
Chez Aldi, profitez de l'été sans compter. Maintenant en promo, 1 kg de filet de poitrine de poulet frais et belge au prix mini de 7 €. C'est bon, c'est pas cher, c'est du beau poulet comme on aime. Aldi, le choix malin.
Bel RTL Matin, avec Jean-Migaud Turnon et Thomas de Bergueyck.
Il est 7h37. Si un jour vous voyez quelqu'un qui arrive avec une décapotable et lunettes de soleil dans votre village ou dans votre ville, c'est peut-être Sébastien Debock qui vient vous tendre le micro. Bel RTL. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien.
Bon, on va parler sommeil alors ce matin.
Ah oui, vous savez que les nuits ont été chaudes ces derniers jours, surtout ce week-end. Je sais pas si non.
La plus grosse c'était dans la nuit de dimanche à lundi.
Dimanche à lundi, effectivement.
Ça va arriver alors, même, je pense, le plus gros.
On a parfois du mal à trouver le sommeil, puis quand on le trouve, on se retourne, on se réveille. D'où ma question à Hucle ce matin. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit?
Pas bien, non. Non.
À cause de quoi? De la chaleur?
Ah, je sais pas, non, j'avais un moustique qui me tournait autour et qui m'empêchait de dormir. Ouais, et puis la chaleur, ouais, la chaleur. Donc, non, c'était pas une super nuit.
Ouais, et encore, cette nuit, ça allait encore.
Ça allait.
C'est quoi, 12, 13 degrés, un truc comme ça?
Après, moi, je vous avoue, j'ai un petit ventilateur comme cela que je mets en route pendant une heure et puis ça s'arrête.
Gardez vos conseils pour un instant.
Bah, exactement. Bah, écoutez, on va en parler dans quelques instants puisque vous êtes allé tendre le micro Bel RTL à nos auditeurs et on est toujours impatients de découvrir leur réaction tous les matins. Dans quelques instants, ce sera juste après Lio qui fête son anniversaire aujourd'hui. Lio, comme notre collègue d'ailleurs, Olivier Skonian, c'est peut-être vous. Bon anniversaire si c'est le cas.
Je brise mes promesses et je claque les dents. Ces histoires d'amour qui deviennent tristes. Dans les
hauts du Lio, comme notre collègue d'ailleurs, Olivier Skonian, c'est peut-être vous. Bon anniversaire si c'est le cas.
Je brise mes promesses et je claque les dents. Ces histoires d'amour qui deviennent tristes. Dans les halls de cœur, je les lève pour mort. J'ôte le pain de la bouche des terroristes. Faut dire que je fais un terrodéo. Que j'ai sinistré plus d'une fois. Ils ont bien raison, les météos. Donner des noms de vie au cyclone.
Je casse tout ce que je touche. C'était Lio qui fête donc son anniversaire aujourd'hui et qui a 63 ans.
Info, musique et bonne humeur. Bel RTL, vibrez ensemble. Le micro Bel RTL.
Et oui, on parle sommeil parce qu'on peut très vite avoir des soucis de sommeil avec l'arrivée des fortes chaleurs. De nombreux Belges ont d'ailleurs passé des mauvaises nuits ces derniers jours. D'où votre question à Hucle ce matin. Mon cher Sébastien, est-ce que vous avez bien dormi?
Ah bah, je vous renvoie la question. Vous avez bien dormi?
Je dors très bien.
Bah, c'est vrai que cette nuit, ça allait encore. Hein. Oui. Il faisait quoi? 12, 13 degrés, me semble-t-il, durant la nuit. Tiens, et vous, Sophie, vous avez bien dormi?
Moi, j'ai très bien dormi cette nuit, je dois avouer. Oui. Vous voyez, j'ai très bien dormi cette nuit. Moi, je dors toujours très mal la veille de pleine lune. Mais la veille, pas le jour J, bizarrement. La veille. Donc, je peux t'annoncer, demain, c'est la pleine lune, rien qu'à savoir que je dors pas.
Oui, alors, c'est pas demain, la pleine lune. La prochaine, j'ai vérifié, c'est le 10 juillet, je pense, la pleine lune.
Encore un peu de patience.
Enfin, bon, ici, on n'était pas sur une question de pleine lune, hein. Non, je posais la question parce que ces derniers jours, c'est vrai qu'il a fait chaud, Claudio, même la nuit, et que c'est pas toujours génial pour dormir.
Non, j'ai pas bien dormi aujourd'hui.
Ah. Non, est-ce qu'il est trop chaud ou quoi?
Non, pas du tout. C'est simplement que j'avais mangé quelque chose que ça jouait un peu et j'étais trop fatigué. Et bon, les vins rosés, je crois que j'avais exagéré un petit peu, mais pas de trop, mais quand même, hein.
C'est moins agréable tout de suite.
Ça, c'est loin d'être le mariage idéal, évidemment. Le barbecue, le vin rosé, et puis alors, après ça, tu vas te coucher. Donc ça, c'est, voilà, la chaleur, et en plus, si on a bu un coup, effectivement. Vous aussi, Nicole, vous avez le sommeil agité ces derniers jours?
Non, moi, j'ai bien dormi.
Oui?
Je suis dans une arrière-maison, mais avec un jardin avec beaucoup de verdure. Mmh. Donc, il fait frais. J'ai pas de problème de chaleur, comme dans un appartement, où là, c'est différent.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça dépend de l'endroit où on habite, forcément. Parce que tu peux très bien dormir dans une maison et très mal dormir dans une maison, comme tu peux avoir un sommeil tout à fait profond dans un appartement.
Ah oui, non, moi j'ai ma chambre sous les toits, hein, donc on est quand même, on est un peu, c'est un peu le, ça rappelle la Thaïlande, le petit ventilateur, la chaleur, mais j'ai bien dormi.
Ah voilà, moi aussi, voilà. J'ai la chambre sous les toits.
Et c'est vrai que là c'est chaud, la chambre sous les toits c'est dur. Hein. Quand il fait canicule, c'est dur.
Mal.
Mais moi, c'était dur enfin, le premier jour de canicule. Quoi. Maintenant, on est déjà habitué. Là, ça fait 3 jours, c'est bon.
Oui, elle aussi, elle a un ventilateur.
Oui,
hein.
oui, mais alors, attention, il n'y a déjà pas, il y a pas eu de canicule.
Non, officiellement,
on a eu des fortes chaleurs. Mais c'est vrai que quand on dort sur les toits, je ne sais pas si vous
c'est
connaissez.
C'est pas mon cas, non.
C'est pas votre cas. Bon, moi, c'est le mien. Tu ouvres les fenêtres, tu fais tout ce que tu peux pour essayer de
ça reste chaud.
Alors, moi, je disais à ma femme, je lui dis, bon, si ça continue comme ça, on ira dormir à la cave. Hein. Au moins, là, il fait frais toute l'année.
Non, mais moi j'ai déjà pensé, c'est l'endroit le plus confortable quand il fait très très chaud.
La cave.
Ouais, exactement, je te promets.
La cave.
Non. Moi ça m'est déjà arrivé de terminer, dans le fauteuil.
Oui.
Parce que c'était le coin le plus frais de la maison et que j'étais beaucoup plus confortable.
Oui, c'est ça.
Donc si maintenant t'as une chambre qui tape plutôt du côté sud, c'est compliqué à la rafraîchir, hein, même si t'ouvres tout ce que tu veux.
Ouais, c'est clair.
Et les murs sont chauds et il fait encore plus chaud le soir, donc
Et tous les moyens sont bons, hein. Finalement, on garde les volets baissés, hein. Toute la journée, on tire les rideaux, effectivement, pour essayer de garder un maximum de fraîcheur.
Moi, je mets un air cooler dans ma chambre.
C'est ça.
Voilà. Et puis les gens qui n'ont pas d'air cooler, il y a toujours un truc pour bien dormir, pour bien s'endormir, parce que c'est s'endormir bien qu'il faut faire.
Oui.
Dormir, ça vient après.
Oui.
Alors il faut prendre une bonbonne d'eau. Vous savez les bonbonnes d'eau. Vous badigeonnez votre drap de dessous et votre oreiller avec, et vous badigeonnez le drap de dessus, et puis vous vous mettez directement dessus. C'est très frais, mais ça rafraîchit le corps, et ça permet de s'endormir.
Il faut quelques bonbonnes pour faire
tout ça. Chacun son astuce. Hein. Sandrine, effectivement, parlait du savon de Marseille la semaine dernière. Alors, quand le mercure grimpe, c'est vrai qu'on a tendance à se débarrasser des couvertures, des couettes, des autres draps et tout ça. Le pyjama, Nicole?
Ça, je vous donne un discret. Moi, je dors toute nue. C'est enregistré, tout ça.
Ouh, c'est que de la radio, c'est pas de la télé. Vous n'êtes pas...
J'aime pas les contraintes, les élastiques, tout ce qui serre, tout ce qui touche la peau. Et je pense que la peau doit respirer.
Mais rassurez-vous,
c'est pas faux.
On va pas poser la question à notre invité quand même qui vient d'arriver, Maxime Prévost. Bonjour.
Bonjour.
Ça nous regarde pas. Hein. Vous êtes ministre des Affaires étrangères. Mais par contre, la question, non, tout nu ou pas, non. On veut pas savoir.
Bronzé.
Enfin, si vous voulez répondre, vous pouvez, mais je ne vous pose pas la question. Mais par contre, vous dormez suffisamment, vous, parce que dans vos nouvelles fonctions là.
Non, pas du tout. On voit mon visage que les valises. Je ne fais pas que les transporter. Je les ai dans le regard.
Vous n'êtes pas le seul. Vous êtes avec des matinaux qui dorment très peu aussi. Donc, eh bien, vous êtes notre invité dans un instant. On parlera de toute autre chose. À tout de suite.
À tout de suite.
The heart is a blue. space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return.
Tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, c'était YouTube avec Beautiful Day. Il est 7h50, votre invité Martin Buxan ce matin est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, c'est Maxime Prévost.
Oui, on attaque sans prendre de gants, hein, parce que d'ici 30 minutes, vous devez, Maxime Prévost, être sur les bancs du Parlement en compagnie du Premier ministre de Wever, du ministre de la Défense. Vous devez expliquer aux députés quelle sera la position de la Belgique lors du sommet de l'OTAN la semaine prochaine à La Haye, un sommet crucial, hein, Maxime Prévost, c'est crucial.
Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, les temps sont troublés. On voit bien que le monde est en feu un peu partout. Les zones de conflit se multiplient. Les menaces sont omniprésentes, y compris de nature cyber. Et donc, il faut que l'on puisse prendre les devants, se remettre à niveau, montrer que nous restons au sein de l'OTAN, qui est notre alliance de protection pour la paix, un partenaire fiable, malgré que nous ayons été pendant très longtemps, probablement trop longtemps, le mauvais élève de la classe, en peinant à pouvoir investir pour la défense, comme c'était notamment requis. Et donc, effectivement, maintenant, il y aura un bond d'investissement à devoir faire, jusqu'à 3,5% au lieu des 2% actuels. C'est évidemment compliqué dans le cadre budgétaire qu'on connaît aujourd'hui, et j'ai été très transparent. À court ou à moyen terme, ce n'est simplement pas soutenable pour la Belgique par rapport à notre équation budgétaire. On n'a pas envie de créer de nouveaux impôts ou de saquer dans les dépenses de manière inconsidérée, mais il nous faudra montrer qu'on reste loyaux.
Et on va détailler un peu tout ça, parce que vous dites 3,5% du PIB, pour pas perdre tous nos auditeurs, c'est le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses qui sont produites dans un pays chaque année. Alors,
L'OTAN va demander que les pays membres consacrent jusqu'à 5% de leur PIB aux dépenses de défense. À la grosse louche, pour la Belgique, ça ferait 30 milliards d'euros chaque année.
Et c'est bien pour ça que c'est...
30 milliards d'euros chaque année pour la défense.
Et c'est bien pour ça que je viens d'expliquer que c'est insoutenable au vu de notre réalité budgétaire.
Actuellement, on n'est même pas à 2%. Hein.
On va être à 2% cette année. Enfin, c'est l'engagement que nous avons formulé et que nous allons tenir.
On sait comment on va y arriver, ces 2%.
On doit encore affiner dans les mois qui viennent.
Donc
on ne
sait
manière...
même pas comment on va obtenir 2%.
Très clairement, ça représente 4 milliards d'économies ou de dépenses, surtout additionnelles. Et donc, on veut éviter d'aller frapper le portefeuille des citoyens. Et donc, on va faire un mix entre la vente de certains actifs, de certains bijoux de famille, des mesures évidemment apportées plus structurelles. Mais les 5% que vous évoquez, il faut bien comprendre qu'ils se divisent entre 3,5% d'investissement militaire pur, de nouveaux avions, de nouveaux matériaux, et 1,5% qui sont peut-être plus faciles à atteindre, qui sont des investissements connexes pour la sécurité, dans les infrastructures, dans la mobilité, dans la protection, donc en cybersécurité.
On voit très large, beaucoup plus large
pour pouvoir être au rendez-vous des besoins de sécurité de notre population et de notre prospérité.
Maxime Prévost, est-ce qu'on pourrait avoir en Belgique une taxe défense ?
Oh, c'est pas à l'ordre du jour, honnêtement. Mais bon, moi, il faut de toute manière jamais rien exclure dans le futur. Mais notre volonté n'est certainement pas de s'emballer avec la création de nouvelles taxes. On est déjà pas mal taxé suffisamment en Belgique.
Et quelle est la limite alors que la Belgique va donner la semaine prochaine à l'OTAN ? 3%, 3,5%, puisqu'on peut pas arriver à 5. On va dire quoi quand on sera assis à la table de l'OTAN ?
Ben, on va dire à la table de l'OTAN la vérité, comme on le fait ce matin aux Belges. C'est-à-dire que nous sommes lucides sur le fait que nous ne pourrons pas nous opposer, puisque c'est au consensus que les choses se décident, à cette vague de fixation de l'objectif de 5%, parce que l'écrasante majorité des pays alliés le veulent. Il faut se rendre compte que autour de nous, les autres pays ont continué ces dernières décennies à investir dans la défense. Donc, eux sont déjà à 3,5, 4, 4,5, par exemple. Et donc, 5, ça ne leur semble pas un effort.
Comment eux y arrivent et nous pas, Maxime Prévost? C'est ça la question.
Parce qu'ils ont fait d'autres choix et que je pense que politiquement, on a toujours considéré que le grand-oncle Sam, les Américains, allaient être là pour pouvoir suppléer lorsqu'il y avait des besoins de défense ou des attaques.
Ouais,
et donc,
on
s'est reposé sur nos lauriers en considérant que, à chaque fois, les États-Unis allaient répondre présent. Mais on voit bien que les tonalités de la administration Trump qu'aujourd'hui, sa volonté de se recentrer sur l'Indo-Pacifique au détriment du continent européen, qu'il va falloir se prendre en main et qu'une vraie défense européenne se construise, pas pour investir dans la guerre, mais pour pouvoir
dans notre
préparer
défense. Maxime Prévost, est-ce qu'on risque de se faire exclure de certains programmes de l'OTAN si on contribue moins que les autres ?
Non, je ne pense pas, mais par contre, on aura du mal à concerner peut-être la confiance des alliés, la volonté de venir à notre soutien si c'est nécessaire.
Et je rappelle que vous dites
que nous sommes aussi le pays qui accueille le QG de l'OTAN,
sa base chez... Il pourrait partir.
Ce n'est pas exclu et donc on doit éviter évidemment ce scénario catastrophe en restant fiable, en disant que nous avons besoin de mécanismes de flexibilité, notamment sur le calendrier de réalisation, parce que notre budget ne nous permettra pas de tout faire tout de suite. Et donc oui à de la flexibilité et oui aussi à rester loyaux et corrects par rapport à nos alliés.
Est-ce que la Belgique pourrait être moins bien défendue parce qu'elle ne paye pas, parce qu'elle dépense moins ?
Vous avez entendu comme moi Trump plusieurs fois dire qu'à un moment donné, il n'allait pas venir au secours de ceux qui ne remplissaient pas leur part de contrat. Et donc, c'est à nous maintenant de pouvoir consolider.
On serait moins bien défendu par l'OTAN.
Mais ça sert à rien d'avoir peur. Ce qu'il faut, c'est de se mettre à niveau pour pouvoir consolider un pilier européen de défense au sein de l'OTAN. Notre continent est sous pression, menace russe aussi. Ce n'est pas que des mots, ce sont des faits et il faut pouvoir à leur répondre.
Alors, toujours à l'international, Maxime Prévost, grosse mobilisation ce week-end à Bruxelles pour Gaza et la Palestine, entre 80 et 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles. On a l'impression que ce gouvernement fédéral ne fait pas grand-chose. Vous demandez des sanctions contre Israël depuis des semaines, il n'y a toujours rien.
Oui, soyons clairs, 100 000 personnes dans la rue, c'est un signal, mais 2 millions de Palestiniens qui crèvent de faim aujourd'hui, c'est un devoir moral de pouvoir être au rendez-vous, effectivement.
Et donc,
effectivement.
Vos sanctions contre
Israël. Et donc, très clairement, parce que moi, j'entends beaucoup de caricatures disant que le gouvernement belge n'en fait pas assez. Je vais être très clair, nous ne sommes pas Superman. La Belgique, elle seule, ne va pas pouvoir tordre le bras d'Israël. On voit bien que les grandes puissances du monde peinent à pouvoir changer la feuille de route d'Israël. Mais nous devons avoir une réponse collective européenne. Un exemple pour le comprendre, si on fait, et c'est nécessaire, je le pense, un embargo sur le transit d'armes, par exemple, depuis le port d'Anvers, si c'est de toute manière pour que, à quelques kilomètres de là, tout passe par Rotterdam et que les armes soient quand même livrées, ça ne réglera pas la cause palestinienne.
Les mesures
très claires. Un, la Belgique est dans la locomotive de tête des pays qui ont souhaité aussi qu'on révise l'accord avec Israël et qu'on puisse prendre d'éventuelles mesures de sanctions économiques. Deux, nous avons également plaidé pour élargir ces sanctions
pas seulement aux colons violents, aux leaders du Hamas, mais aussi, et nous sommes avec la Suède, l'un des rares pays à avoir été aussi vocaux, sanctionner les ministres
donc vous
extrémistes.
Vous répétez le fait de ne rien faire contre Israël.
Effectivement. Troisième élément, et c'est important.
Et brièvement, parce qu'on doit passer à la suite.
Cette semaine, il y a une lettre qui, à mon initiative, va partir avec le soutien de 7 autres pays européens pour demander qu'on tire les enseignements de l'analyse qui a été faite par la Cour internationale de justice l'an dernier, qui dit clairement que l'occupation des territoires palestiniens par Israël est illégale et qu'il y a donc des mesures à pouvoir prendre pour notamment les questions d'importation des produits, questions de relations économiques. Et dernier élément, dans quelques jours, je réunis aussi les régions qui sont compétentes sur les licences d'armes pour pouvoir s'assurer que l'on respecte le traité qui évite de mettre en danger les populations, civiles.
D'armes à Israël, c'est ça que vous voulez dire?
Il y a un embargo sur la vente qui est très clair, mais on doit s'assurer qu'il n'y a pas de passoire, notamment sur les questions de transit. Et j'ai été parmi les plus vocaux. Rares sont les ministres des Affaires étrangères à avoir évoqué la question aussi du génocide avec autant de clarté que je ne l'ai fait. Et donc, nous sommes à la pointe, mais la réaction, elle doit être collective, elle doit être européenne.
Je reviens sur le sol belgo-belge parce qu'il y a eu une réunion très tard cette nuit du Conseil des ministres restreint, le Cairn, comme on dit, et il y a un accord très important sur la suppression du Sénat.
Effectivement, on avait déjà fait en sorte d'être à la pointe de la gouvernance, d'une part en supprimant les fameux parachutes dorés des parlementaires en fin de mandat,
on
en remplaçant
Sénat, ça c'est dingue, hein,
tout à fait par un an maximum de préavis. On a également pris la décision cette nuit de supprimer le Sénat, c'est 50 mandats de parlementaires en moins qui vont comme ça réduire aussi le coût pour le budget de l'État de la fonction politique.
À partir de quand?
La volonté, c'est d'avoir un accord pour que ce soit voté cette législature. Le Premier ministre va entamer les consultations des autres partis politiques, puisqu'il faut une majorité des deux tiers, et donc pas uniquement les partis de la majorité, pour que ce soit effectif dès la législature
prochaine.
Mais
il y a un accord de l'Arizona. Alors, un autre accord, c'est sur vous savez, les mesures compensatoires pour les gens qui vont être exclus du chômage. Il faut une compensation pour les CPS. Et là, il y aura 234 millions d'euros en 2026.
C'est un premier élément clé. Les engagés avaient toujours dit que la réforme du chômage devait impérativement s'accompagner d'un refinancement complémentaire des CPS pour pouvoir permettre que les missions d'accompagnement soient effectuées. L'enjeu de la réforme du chômage, c'est pas juste de venir donner des coups de bâton, c'est d'abord et avant tout de permettre, à travers un accompagnement intensifié par les CPS, la remise à l'emploi. Il n'y avait dans la trajectoire budgétaire pas un euro qui était prévu pour l'année 26. Nous nous sommes battus cette nuit avec aussi vos Reut. Et clairement, il y a déjà 234 millions qui sont prévus dès l'année prochaine pour pouvoir soutenir